Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après que Chantal Jouanneau, cible d'une polémique sur le montant de son salaire, annonçait hier qu'elle se retirait du pilotage du grand débat national, l'exécutif devrait proposer aujourd'hui une nouvelle organisation à l'issue d'un séminaire gouvernemental, lequel devra également tenter de résoudre cette apparente contradiction entre une consultation, en principe ouverte sur tous les sujets, mais qui ne remette pas en cause des réformes déjà décidées.
Dans votre édition également, s'agissant des réformes, justement, c'est aujourd'hui que doivent reprendre les négociations sur l'assurance chômage.
Et en France, toujours fort de leurs bons résultats, les entreprises du CAC 40 ont augmenté de plus de 12% les dividendes et les rachats d'actions en 2018. Elles n'avaient jamais été aussi généreuses avec leurs actionnaires depuis 10 ans. Enfin, pour évoquer l'actualité française et en particulier, bien entendu, la crise des gilets jaunes, invité de ce journal dans une dizaine de minutes, François de Mazières, maire d'hiver droite de Versailles.
Jamais depuis son accession à la Maison Blanche, Donald Trump ne s'était exprimé à la télévision en direct depuis le bureau ovale.
Oui, avec des mots abrupts, le président américain a réitéré hier soir son projet d'ériger un mur à la frontière avec le Mexique en insistant notamment sur la situation de crise à la fois sécuritaire et humanitaire grandissante selon lui. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui à la Maison Blanche entre dirigeants républicains et démocrates. Enfin, l'ouverture d'une nouvelle série de débats au Parlement sur son projet de traité avec Bruxelles. Theresa May a déconseillé aux députés britanniques de fantasmer sur la possibilité de négocier un autre accord de divorce avec l'UE. La Chambre des communes doit se prononcer le 15 janvier. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
D'un côté, aujourd'hui, le lancement des soldes d'hiver. De l'autre, le mouvement des gilets jaunes et la crise du pouvoir d'achat. Et au milieu, la consommation. Alors, consommation de masse ou consommation de classe, où en est-on aujourd'hui en France? Rendez-vous à partir de 2055 avec l'historien Jean-Claude Domas.
Merci, à tout à l'heure. Ce devait être le sésame censé lui ouvrir les portes de la reconquête de l'opinion tout en apaisant la colère des gilets jaunes. Or, avant même son coup d'envoi fixé au 15 janvier, voilà que le grand débat national voulu par Emmanuel Macron a vu hier sa principale organisatrice en chef saisie d'une extinction de voix, critiquée pour son salaire élevé, alors même que le pouvoir d'achat s'annonce comme la préoccupation numéro un de cette grande consultation. Chantal Jouanneau a en effet décidé de jeter l'éponge, elle n'organisera donc pas ce débat, sans pour autant renoncer par ailleurs à la présidence de la Commission nationale du débat public. Alors prenant acte de cette décision, Matignon a immédiatement annoncé qu'à l'issue du séminaire gouvernemental qui se tient en ce moment même à l'Élysée, le Premier ministre présenterait une nouvelle organisation. De son côté, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a elle estimé ce matin qu'il faudrait un sage pour piloter ce grand débat, quelqu'un qui est l'estime des Français, a-t-elle déclaré, avant de préciser « on n'en a pas tant que cela et c'est probablement ce qui nous manque aujourd'hui ». Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
On le voit, moins d'une semaine maintenant du lancement de cette grande consultation, l'exécutif se retrouve à présent dans la situation de devoir improviser.
Tout est prêt, nous dit-on, pour lancer ce débat comme prévu mardi, sauf qu'on ne sait toujours pas précisément de quoi on va parler. Et maintenant, on ne sait plus avec qui, en tout cas qui va le piloter. Chantal Jouanneau l'assure, son départ ne tient qu'à la polémique autour de son salaire. Michel Sapin a du mal à y croire. Il y a, pour l'ancien ministre des Finances interrogé sur France Info, d'autres raisons plus profondes.
Elle s'interrogeait sur la nature de ce débat. Est-ce que c'est un débat libre, mais suffisamment, malgré tout, encadré pour que ce soit pas le déversement de toutes les démagogies possibles et imaginables, mais est-ce que c'est un débat libre ou est-ce que c'est un débat dont le président de la République serait en quelque sorte le grand ordonnateur et dont on connaîtrait déjà à l'avance le résultat? Je ne le sais pas, je pense que personne ne le sait, c'est d'ailleurs une des raisons de ce désordre dans les esprits.
De quoi va-t-on pouvoir discuter et les réponses des Français auront-elles une quelconque valeur contraignante? Ce sont les questions auxquelles les ministres sont normalement en train d'essayer de répondre, mais quel que soit le choix du gouvernement, il pourrait bien se retourner de toute façon contre lui. C'est l'analyse du politologue Jérôme Sainte-Marie, président de Polling Vox.
C'est compliqué pour l'exécutif, c'est qu'il lance une consultation très vaste qui ressemble un tout petit peu finalement aux états généraux, aux cahiers de doléances. Donc ça crée une forme de pouvoir constituant pour la population. Donc soit c'est pris au sérieux, et là on risque d'avoir des orientations très embarrassantes pour le pouvoir, soit alors il y a un désintérêt, et à ce moment-là c'est une opération qui sera simplement déconsidérée par une absence de participation.
Et en plus du cadrage et de l'organisation du débat, le Premier ministre doit annoncer tout à l'heure son nouveau pilote, avec des garanties équivalentes en termes d'indépendance et de neutralité. Et puis, quand l'exécutif aura fini de débattre du grand débat, alors peut-être les Français pourront s'en emparer.
Merci Rosalie Lafarge. Alors l'une des questions posées par ce grand débat national est de savoir si l'exécutif attendra d'en tirer des conclusions pour, le cas échéant, modifier le contenu des réformes qu'il entend mener cette année. Celles-ci sont d'ores et déjà connues, la fonction publique, la révision constitutionnelle, la transition écologique, mais aussi la fiscalité locale, les retraites et l'assurance chômage. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Les négociations sur l'assurance chômage doivent en effet reprendre aujourd'hui. Le gouvernement exige des syndicats et du patronat qu'ils trouvent entre 3 et près de 4 milliards d'euros d'économies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces négociations semblent assez mal engagées.
Oui, déjà le mois dernier, les partenaires sociaux au plus fort de la crise des Gilets jaunes avaient dû réclamer un délai supplémentaire pour négocier, un délai qui nous amène à la mi-février. Mais est-ce réellement une question de temps et de calendrier qui pourrait donner une chance à ces négociations d'aboutir au regard des oppositions entre les syndicats et le patronat sous la pression du gouvernement? Il est difficile d'y croire. Et le sujet principal de crispation aujourd'hui porte sur la régulation des contrats courts, les CDD de moins d'un mois. Le système de bonus-malus sur les cotisations patronales revient régulièrement sur le tapis. Le MEDEF et la CGPME ne veulent pas en entendre parler, au point que les syndicats des petites et moyennes entreprises avaient menacé dans une lettre au président Macron en décembre dernier de quitter les négociations. Le MEDEF aujourd'hui doit faire le point sur l'état d'avancée dans les branches professionnels. Seuls 5 ont signé des accords anti-précarité. Autant dire que c'est très peu. Et de plus, ce ne sont pas celles qui sont les plus concernées par l'abus des CDD courts, comme par exemple l'hôtellerie et la restauration. Alors pour éviter que la séance de négociation aujourd'hui ne finisse en clash, le MEDEF devrait proposer de renvoyer le sujet à une autre négociation interprofessionnelle qui serait menée en parallèle de celle de l'assurance chômage. Une option qui, même si elle était acceptée par les syndicats, ne résout pas vraiment l'équation. Emmanuel Macron souhaite également un changement en profondeur des règles d'indemnisation des chômeurs pour les inciter à reprendre le travail. Et là, c'est tous les syndicats qui s'insurgent contre l'idée du chômeur profiteur.
Merci Annabelle Grelier. Eux ont définitivement tourné la page de la crise et retrouvé confiance en l'avenir. Ce sont les géants du CAC 40, selon les derniers chiffres publiés ce matin par le journal Les Échos. Les grandes entreprises françaises ont versé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2018, du jamais vu depuis 2007. Cela représente une hausse de près de 13% sur un an et 62% par rapport au plus bas il y a 10 ans. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Alors dans le contexte actuel, on imagine que ces chiffres ne feront que nourrir davantage encore le débat autour de la justice fiscale et de la répartition des richesses. Comment explique-t-on de tels records et creuse-t-il les inégalités?
Alors la première raison, c'est que les bénéfices de l'année 2017 ont été aussi à des niveaux records pour les entreprises du CAC 40, 92 milliards d'euros de profits. Or, ce sont ces profits qui ont été redistribués aux actionnaires en 2018. La deuxième raison, c'est que ces versements de dividendes sont tirés vers le haut par 3 entreprises, Total, Sanofi et BNP Paribas, qui à elles seules comptent pour un tiers des dividendes versés. Même s'il y a des inégalités au sein même du CAC 40, notons qu'en 2018, pour la première fois, toutes les entreprises de l'indice ont versé un dividende, toutes sans exception. La troisième raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de rachats d'actions l'an passé. 17 entreprises sur 40 ont eu recours à cette pratique. En achetant ses propres actions, l'entreprise réduit leur nombre en circulation, ce qui a pour effet mécanique d'augmenter le bénéfice par action. Alors, est-ce que cela creuse les inégalités? Oui, c'est un vecteur, car ceux qui ont un capital en actions sont en majorité les plus hauts revenus et patrimoine. Est-ce que cette distribution de dividendes se fait au détriment des salaires? Il faut voir au cas par cas, mais les gilets jaunes ont eu leur effet sur ce débat. Fin décembre, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est dit choqué par l'écart entre l'augmentation des dividendes et des salaires, et il a plaidé pour une meilleure répartition entre le capital et le travail. Peut-il faire autre chose que plaider? Oui, il le peut, mais pour le moment, sa politique fiscale a eu l'effet inverse. L'an dernier, le gouvernement a réduit l'imposition des dividendes avec la flat tax, ce qui a eu pour effet d'augmenter le versement de dividendes pas seulement pour les entreprises du CAC 40, mais aussi dans les petites et moyennes entreprises, comme le notait d'ailleurs non pas l'opposition, non pas les Gilets jaunes, mais Bercy dans ses annexes au projet de loi de finances pour 2019.
Merci Marie Viennot. Comme un miroir inversé, les données publiées par l'INSEE aujourd'hui témoignent de ce que la confiance des ménages a chuté au mois de décembre, et ce pour le deuxième mois consécutif, atteignant même un plus bas depuis plus de 4 ans sur fond d'inquiétude accrue des Français à la fois sur l'évolution de leur niveau de vie et de leur pouvoir d'achat, autant de thématiques au cœur donc des revendications des Gilets jaunes. Les soldes qui débutent ce matin sur l'ensemble du territoire prennent eux aussi une tournure particulière cette année après plusieurs semaines de mobilisation qui auront fortement perturber les commerçants, notamment pendant la période de Noël. Conséquence directe, les pertes dans le commerce de détail ont déjà atteint 2 milliards d'euros, sans compter l'alimentaire. Pas de quoi pour autant inquiéter visiblement Philippe Moati, économiste à l'Université Paris Diderot et membre de l'Observatoire Société et Consommation. Pour lui, ces soldes devraient être un bon cru, ainsi qu'il l'explique à Hakim Kasmi.
Comme le pouvoir d'achat, quoi qu'en disent les Gilets jaunes, hein, finira en hausse hein, sur l'année, puisque l'INSEE nous dit qu'on devrait s'attendre à avoir une hausse de 1,4%, 1% par unité de consommation, c'est-à-dire par tête. Plus les mesures gouvernementales vont donner une bouffée d'oxygène supplémentaire pour l'année 2019. Donc théoriquement, entre un manque à gagner, des achats qui ont été reportés et une conjoncture du pouvoir d'achat qui est plutôt bonne en réalité, si les Gilets jaunes ne bloquent pas l'accès au commerce, c'est vraiment la condition sine qua non, on devrait avoir un bon cru, disons, pour les commerçants. Et ils en ont bien besoin.
Avec un enjeu, ne pas non plus trop casser les prix pour pas trop vendre à perte.
Alors oui, vous savez qu'avant d'arriver au seuil de revente à perte, il faut quand même baisser beaucoup les prix. Hein. La preuve est qu'actuellement, vous trouvez déjà des enseignes qui sont à moins 50%, alors qu'on n'est pas encore dans la période de solde. Ça veut dire qu'avec moins 50%, il reste encore de la marge. Par ailleurs, c'est un secret de polichinelle. Hein. On fait souvent venir des marchandises spécifiquement pour la période des soldes. Donc le prix qu'on a barré, mais quelquefois un prix qui a été élaboré de manière à pouvoir être barré tout en laissant une marge aux commerçants. Donc en fait, les vraies ventes à perte, il y en a assez peu, elles interviennent vraiment à la fin de la période de solde. Il n'y en a plus chez les indépendants, hein, qui ont des vrais invendus qu'on a besoin de liquider pour récupérer de la trésorerie, mais dans les chaînes, notamment les chaînes de l'habillement, les chaînes internationales qui sont gérées en flou tendu, les vrais soldes dont on cherche à se débarrasser coûte que coûte, quitte à vendre ça à vil prix, en fait, il y en a très très peu.
L'économiste Philippe Moati répondait à Hakim Kasmi. La valse des étiquettes, toujours et encore. Hier, l'ancien ministre Thierry Mariani a mis fin à un long feuilleton rejoignant la liste du Rassemblement National pour les élections européennes en compagnie de l'ex-député LR Jean-Paul Garot. Une prise de choix donc pour le parti d'extrême droite et une défection supplémentaire pour les Républicains. Et pour continuer d'évoquer toute cette actualité française à la fois sociale et politique, invité de ce journal aujourd'hui, François de Mazières, maire d'hiver droite de Versailles. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur de Mazières. J'évoquais à l'instant le ralliement de Thierry Mariani au parti de Marine Le Pen. Une passerelle est-elle possible aujourd'hui, selon vous, entre les Républicains d'un côté et le Rassemblement National de l'autre?
Écoutez, je pense que la démarche de M. Mariani est une démarche personnelle. Je crois qu'aussi on est en cas de préparation des élections européennes. Je crois qu'il y a un siège qui est aussi dans la perspective de M. Mariani. Après, il a aussi son itinéraire qui est bien connu et je crois que ça n'étonne personne.
Une question de Stéphane Robert.
Si on vous a invité ce matin, c'est parce qu'il y a quelques jours, vous avez publié une tribune dans le quotidien national Le Figaro en expliquant que avec les solutions qu'a apporté Emmanuel Macron pour tenter de résoudre la crise des gilets jaunes, notamment les différentes mesures qui vont coûter 10 milliards d'euros pour satisfaire aux revendications de pouvoir d'achat, ont ouvert une boîte de Pandore, la boîte de Pandore à toutes les revendications, notamment en direction des maires dont vous faites partie. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement et qu'est-ce qu'on vous demande?
Écoutez, la remarque que je fais, c'est que on voit, et vous l'avez dit dans la présentation de ces nouvelles, c'est qu'un peu, c'est le grand foutoir actuellement. C'est le grand foutoir parce que vous avez des revendications dans tous les sens. Et puis on a le sentiment que vraiment la France va pas bien. Si vous êtes à l'étranger, on n'entend que des échos inquiets sur la France. Il y a à peine un an, la France était au contraire un pays qui marchait bien, qu'on donnait en exemple. Et c'est assez inquiétant parce qu'au fond, ce que demandent les Gilets jaunes, c'est que ça se passe mieux. Et on est en train d'abîmer le moteur. C'est ça que je constate. Et il y a une évidence aussi, c'est que le timing est mauvais. quand vous faites un débat national pour dire on va prendre des mesures, il faut que les mesures n'aient pas été prises. Or là, 10 milliards ont déjà été mis sur la table. Sans doute que la mesure, le fait de ne pas appliquer une hausse sur les carburants a été prise beaucoup trop tard, c'est évident. Il y a eu une mauvaise gestion du timing politique. Mais aujourd'hui, on est encore dans la continuation de cette mauvaise gestion. Parce qu'on ne fait pas un débat tout azimut, mal cadré, après que l'on ait beaucoup investi.
Et le résultat dans ce que vous rencontrez, vous, au quotidien en tant que maire, du coup, on vient vous voir pourquoi ?
Ben, on va voir pour tout, si vous voulez. Le maire, c'est une phrase que beaucoup maintenant d'élus emploient, qui est une phrase qui vient, je crois, de Gérard Larcher. C'est-à-dire, le maire, il est à portée d'engueulade. En fait, surtout, le maire, il est à portée de dialogue. Ce qu'il faut savoir, parce qu'aujourd'hui, on remet en cause tous les politiques. Vous voyez, tous les politiques ne feraient mal leur boulot. Mais non, les politiques, les maires que nous sommes, on fait ça par passion. On aime nos villes, on aime les gens. On ne fait pas ce métier parce que on n'a pas ça en nous, cette fibre-là. Quels que soient nos partis auxquels on appartient, ou comme moi, lorsqu'on est non inscrit, si vous voulez, on fait ça par passion. Et puis on est en train de mettre tout le monde dans le même sac en disant tous les politiques sont pourris. Non, c'est pas le cas. Ce que je vois, par contre, c'est que dans ce climat général, à partir du moment où le débat est ouvert sur tout ou sur n'importe quoi, on est en train de fragiliser ce qui est la base d'une démocratie. On a une chance extraordinaire tout de même. On vit dans un pays qui est une démocratie qui fonctionne. Et regardons dans le monde ce qui se passe, c'est malheureusement de moins en moins le cas. Eh bien, faisons attention. Si on continue, on va vraiment se trouver dans une situation délicate dans quelques années.
Vous êtes allé rencontrer des gilets jaunes, vous avez discuté. Est-ce que vous avez essayé d'apporter un certain nombre de réponses à leurs revendications ?
Moi, si vous voulez, on a mis à l'entrée de la mairie un cahier pour que les gens qui souhaitent participer à ce débat national puissent écrire effectivement leurs demandes. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait l'état ce matin des demandes. On a eu 5 demandes depuis l'ouverture. On n'est tout de même pas une petite ville, hein, 90 000 habitants. Des demandes très diverses d'ailleurs. Certaines, vraiment, c'est intéressant de voir. On va retransmettre ça, mais n'oublions pas qu'on est dans un débat national. Mon inquiétude que j'ai exprimée dans la tribune que vous évoquez, c'est que justement, on est en train de diffuser cette inquiétude. On est en train de faire que la France est une pétaudière. Et regardez, en plus, la personne qui était chargée de ce débat national démissionne. Voilà, je dis, attention, calmons-nous. On est un pays qui, aujourd'hui, certes, il y a des graves problèmes. Certes, il y a des gens en grande difficulté. Mais il y a aussi des choses positives qui, tous les jours, se passent. Et nous, élus de terrain, on le sait bien. Et voilà, j'aimerais que tout de même, on ait un peu cet esprit positif de temps en temps.
Alors, quelle réponse vous pouvez apporter, vous, au niveau local? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, au niveau
Moi, je pense qu'il y a une réponse qui est très claire, c'est que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, un pays démocratique. C'est extraordinairement, c'est une chance fabuleuse. Il y a des élections régulièrement. Si les gens ne sont pas contents, ils auront l'occasion très prochainement de l'exprimer. Vous savez, le temps tout de même, ça va vite. Hein. Je vous disais, il y a un an, tout était très positif. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y aura des élections, les élections législatives, présidentielles sont maintenant presque dans 3 ans. Bon, voilà. Il y a un système démocratique en place. Il y aura des élections municipales l'année prochaine. Et puis, si les gens ne sont pas contents, leur maire et l'équipe municipale, ils pourront les renvoyer. C'est ça le principe même de fonctionnement, je dirais, d'un pays comme le nôtre. Et on a la chance de pouvoir vivre dans un pays comme celui-ci.
On voit cependant qu'il y a une crise de la représentation. Il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique. Et ça, comment est-ce qu'on y répond ? Est-ce que c'est en ne changeant rien et en faisant confiance aux élections ?
Eh bien, écoutez, oui, je crois que nous sommes tous responsables. Tous, quel que soit notre... Dès qu'on a un micro devant nous, il faut le dire. Oui, bien sûr qu'il y a un système qui doit fonctionner, qui est celui de la représentation. Et je crois qu'on fait très... Aujourd'hui, on prend des risques à cette espèce d'éclatement généralisé des demandes dans tous les sens non canalisées.
Merci François de Mazières, maire de Versailles, je le rappelle, d'avoir été en direct avec nous. Merci. Et merci à Stéphane Robert. Les vacances parlementaires terminées, la première ministre britannique replonge aujourd'hui dans les affres du Brexit alors que les députés doivent reprendre ce mercredi l'examen du traité dit de retrait. Theresa May devra une nouvelle fois tenter de les convaincre de ne pas enterrer cet accord de sortie conclu avec Bruxelles. Exercice qui s'annonce difficile étant entendu que ce texte est aujourd'hui vilipendé par les Brexiteurs d'une part qui craignent une forme d'arrimage permanent à l'UE et que les europhiles d'autre part espèrent eux encore pouvoir faire machine machine arrière. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Alors le vote de ce traité de retrait est fixé au 15 janvier. Son adoption, on l'a compris, semble d'ores et déjà très compromise. Sans compter qu'hier, comme un avant-goût de l'échec qui attend probablement la Première Ministre, les députés ont voté un amendement à une loi budgétaire qui limite la possibilité pour le gouvernement d'accepter un Brexit sans accord avec l'UE.
Oui, c'est une sorte de premier coup de semonce des parlementaires. Un vote commun avec 20 conservateurs aux côtés des travaillistes, droite et gauche, ensemble, pour limiter la marge de manœuvre du gouvernement. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés, explique Yvette Cooper à l'origine de cet amendement. Nous ne permettrons pas que le Royaume-Uni sorte de l'Europe sans aucun accord commercial, précise Oliver Letwin, ancien ministre conservateur. Alors en pratique, le texte empêche le gouvernement de modifier la fiscalité en cas de Brexit dur, impossible notamment de mobiliser de l'argent, de créer de nouvelles taxes pour faire face aux situations d'urgence. Theresa May et son équipe seraient forcés de demander des autorisations spéciales aux parlementaires. Et c'est cette inversion des rôles qui est en train de se dessiner, avec un gouvernement de moins en moins puissant et des députés qui peu à peu prennent le contrôle de la situation. Ils vont d'ailleurs déposer de nouveaux amendements dans les jours qui viennent. La Première Ministre, elle, continue pour l'instant d'afficher sa détermination. Son bras droit, David Lidington, l'a dit ce matin encore, il n'est pas dans l'intérêt des Britanniques de fantasmer sur un accord magique et alternatif. Le seul accord qui existe, c'est celui qui a été négocié avec Bruxelles et il sera mis au vote mardi prochain.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. On l'a appris il y a quelques minutes, après 3 semaines d'errance, les 2 navires humanitaires allemands qui hébergent 49 migrants à leur bord ont finalement été autorisés à accoster sur l'île de Malte. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend par ailleurs que l'Italie, aux mains des populistes anti-système et anti-immigration depuis l'été dernier, a plongé dans le classement annuel des démocraties. Selon le rapport d'un groupe d'experts publié aujourd'hui, le pays est passé de la 21e à la 33e place du classement 2018. Une chute en grande partie liée aux mesures portées par la Ligue d'extrême droite, qu'il s'agisse de la fermeture notamment des ports aux navires ayant secouru des migrants ou bien du nouveau décret-loi sécurité abolissant les permis de séjour humanitaires jusqu'à présent accordés aux personnes vulnérables. Même si le ton du président était sans doute plus solennel qu'à l'habitude, il n'aura pour autant esquissé aucune concession ni proposition nouvelle. Hier soir, lors de son allocution télévisée, Donald Trump aura surtout tenté de rallier une fois de plus les Américains à son projet d'ériger un mur à la frontière avec le Mexique en criminalisant les immigrants illégaux qui, selon ses propres termes, feraient couler le sang américain. Ou bien encore en dépeignant de manière totalement apocalyptique la situation de la sécurité à la frontière. En fin de compte, la seule vraie surprise est probablement venue de son renoncement à lancer une procédure d'urgence exceptionnelle, de sorte qu'au 19e jour d'un shutdown en passe de devenir le plus long de l'histoire des États-Unis, la question se pose toujours aujourd'hui de savoir si un compromis pourra être trouvé avant la fin de la semaine. Qui du président ou des démocrates cédera le premier? Pour l'heure et à la veille d'un déplacement près de la frontière au Texas, Donald Trump a prévu de battre le rappel des troupes ce mercredi à l'occasion d'un déjeuner au Congrès. Une correspondance à Washington signée Grégory Phillips.
D'un côté, Donald Trump qui ne change pas de position, il veut ce mur, il veut que cette promesse de campagne à 5,7 milliards de dollars se concrétise et donc il ira jusqu'au bout. Pendant les fêtes, le président avait dit qu'il était prêt à ce que le shutdown dure des mois, voire des années et en vérité, la Maison-Blanche fait peu de cas pour l'instant de ses 800 000 employés fédéraux sur 4 millions qui ne sont pas payés. Ce sont des fonctionnaires qui pour beaucoup vivent à Washington ou dans la région, pas l'électorat de Trump et les nuisances liées au shutdown restent pour l'instant limitées, donc la Maison-Blanche peut laisser un peu pourrir la situation. De l'autre côté, les démocrates, hors de question de financer cette barrière à la frontière mexicaine, qu'elle soit de béton ou de métal, un mur coûteux et inefficace, ont-ils dit après l'allocution présidentielle. Mais surtout, on voit mal le Parti démocrate faire cette concession à Trump, alors qu'il vient de reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Céder serait une erreur politique. Dans ces conditions, le bras de fer peut durer encore longtemps. 19e jour de paralysie aujourd'hui, on s'approche dangereusement du record de 1995, où l'administration américaine était restée bloquée pendant 21 jours.
Il est un sujet en revanche sur lequel le président américain ne cache pas son optimisme. Ce sont les négociations à Pékin en vue de réduire les tensions commerciales entre les deux puissances mondiales. Celles-ci se sont achevées ce matin. Alors sur leur contenu, rien n'a encore véritablement filtré, mais le simple fait que ces discussions se soient prolongées d'une journée par rapport au programme prévu initialement suggère que les responsables des deux côtés sont engagés à conclure un accord pour mettre un terme à leur friction commerciale. À tout le moins, elles auront contribué à redonner des couleurs aux marchés financiers qui ont tous réagi à la hausse en Europe, aux États-Unis et en Asie. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps restera le plus souvent très nuageux, avec même quelques précipitations à prévoir vers la Champagne et les Hauts-de-France. Le sud-est verra se développer de belles éclaircies. Attention en revanche au Mistral et à la Tramontane qui continueront de souffler fort. Enfin, les températures cet après-midi, elles seront comprises entre 1 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.